Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
La directrice régionale de la santé publique de Montréal, Dr Mylène Drouin, est avec nous ce matin. Mme Drouin, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, écoutez, on va y aller là parce qu'il y a bien des sujets à traiter, puis j'imagine que vous avez une grosse journée devant vous. Je veux juste avoir votre réaction là. Il me semble que je vous ai pas entendu. Ça, votre réaction d'un point de vue de santé publique là, à ce qui est à la manifestation là, en fin de semaine là, les anti-mesures sanitaires. Sérieusement là, d'un point de vue de santé publique, est-ce que vous craignez les 10, 12, 14 prochains jours à venir?
Il y a certainement un risque associé. Je dirais, ben, face à la manifestation, globalement, là, moi, je m'accroche toujours au plus de 70% et à la grande majorité de la population qui est encore derrière nous et qui approuve les mesures sanitaires, puis qui fait en sorte qu'aujourd'hui, à Montréal, on atteint vraiment nos objectifs face à la troisième vague. Fait que ça, c'est vraiment ça à quoi je m'accroche. Par contre, évidemment, cette manifestation-là, on l'a vu, oui, c'est à l'extérieur, mais les consignes sanitaires n'étaient pas suivies. Il y a eu évidemment tous les risques associés aux déplacements autobus, métro, covoiturage. Donc oui, on va voir s'il y a des évidemment là, des répercussions en termes si ça devient un événement de super propagation, ce que je ne souhaite pas, parce qu'on a fait des efforts collectifs majeurs. Mais je pense qu'on va regarder à travers l'ensemble des régions du Québec parce que je crois pas que c'est uniquement les Montréalais qui étaient présents là au stade olympique là, dimanche dernier.
Mais vous êtes sûrement tiré les cheveux, vous, quand vous avez vu ça dans les rues déambuler, 30 000 personnes, 30 000 prix Nobel de la science, là, Mme Drouin, on le sait, là. Sérieusement, là, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Parce que c'est pas des farces, là. Ce qui va arriver dans deux semaines, c'est sûr qu'on va voir des éclosions à la suite de cette manifestation-là.
Ben clairement, les gens ont le droit de manifester. Il y avait d'autres manifestations qui se tenaient en même temps dans la ville de Montréal pour d'autres causes. Donc ça, je pense que c'est un droit qu'on doit maintenir même à travers une pandémie, mais évidemment en respectant les mesures sanitaires. C'est sûr que quand je vois ce genre de manifestation-là, puis qu'on voit tous les efforts, la facette pandémique de la population, mais des intervenants de la santé, tous les jours rentrent au boulot pour essayer d'éteindre ces feux-là. Ben, c'est certainement décevant. Mais comme je l'ai dit, moi j'ai le principe ça, de pas tout mettre mes énergies sur la route qui grince, mais vraiment de travailler avec la grande majorité qui nous amène à atteindre nos objectifs.
Bien, mais en même temps, là, Dr Drouin, là, pour garder la cohérence sociale, là, les gens regardent ça puis ils disent oui, le droit de manifester, mais même, j'ai même pas le droit de recevoir ma famille dans ma cour pour un brunch. Fait que, à un moment donné, est-ce qu'il y a des droits qui devraient être restreints dans ces conditions-là, puisque tout le monde fait des efforts?
Bien, les leviers existent, là, même en lien avec la manifestation, le SPVM et le corps politique ont quand même des leviers là, pour intervenir si les règles sanitaires ne sont pas suivies.
Bien, ils n'ont rien fait, vous l'avez vu. Il y a 28 contraventions pour 30 000 personnes. Encore là, tu sais, c'est pas dissuasif.
Là, je pense qu'il faudrait leur poser la question quelle était la logique là, derrière ce type d'intervention-là. Est-ce que ça aurait, dans le fond, peut-être la logique étant que ça aurait peut-être activé, je dirais, là, la discorde et la tension sociale? Somme toute, on va le voir. Là, dans les prochaines semaines, j'ai quand même espoir là, qu'on n'ait pas, comme l'événement était extérieur, qu'on n'ait pas d'événement de super propagation associé. Mais il n'est quand même pas exclu là, qu'on ait quand même là, des cas ou des éclosions associées à un tel événement.
Là, on avait des chiffres, Dr Drouin, là, Montréal, une des régions où le taux de vaccination est le plus bas, à peu près à 30% contre 35% le reste du Québec. Mais ce matin, on apprend qu'il y aura vaccination à l'auto. Quel est le plan de match derrière ça, là, la vaccination à l'auto?
Ben, la vaccination à l'auto, là, c'est un modèle s'ajoute de plus pour s'assurer d'avoir une offre de services qui va rejoindre le plus de gens possible. Donc, on a des cliniques mobiles, des cliniques éphémères, on a évidemment des centres de masse On a des stratégies dans certains milieux plus vulnérables où on va même aller vacciner en entreprise. Et dans le fond, les cliniques mobiles, la vaccination à l'automobile va être un service de plus pour rejoindre le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible. Donc c'est.
Mais là, on parle de 4000 personnes. 4000 personnes par jour, c'est quand même beaucoup.
Si on veut atteindre nos objectifs, oui. Je pense qu'on se doit là, de viser très très élevé. Le réseau a la capacité de vacciner tout ce beau monde-là. Là, le défi qu'on va avoir, puis je pense qu'on le voit aux États-Unis, ça va être d'avoir la population au rendez-vous. Les sondages nous démontrent que près de 80% de la population veulent se faire vacciner. Mais encore aujourd'hui, je vois qu'il y a des places de rendez-vous libres. On n'a pas encore atteint là, nos cibles pour les 50-59 ans en termes de prise de rendez-vous. Même si ça fait déjà plus d'une semaine là, que c'est grand ouvert là, pour eux.
Donc, ouais, pourquoi, selon vous?
Dans les grands centres urbains, là, c'est toujours plus difficile là, d'atteindre nos couvertures vaccinales. Il y a des gens qui connaissent pas, qui suivent pas les nouvelles nécessairement. Donc, il y a des barrières de langue, évidemment. Là, on arrive dans la population adulte, donc les gens travaillent le jour, des fois les horaires, les moments de rendez-vous sont pas adéquats pour eux. Donc, il va falloir qu'on rajoute, par exemple, du temps rendez-vous et des horaires plus de soir. Donc, on va évidemment, on le sait, dans les communautés culturelles, il y a une adhésion un petit peu moins forte au vaccin. Donc, de là, la nécessité de mener des actions terrain, de proximité avec les leaders des communautés et d'aller chercher ces gens-là qui ne vont pas aller spontanément vers les centres et prendre un rendez-vous.
Ben, encore une fois, d'un point de vue de santé publique, là, quand on voit ce qui se passe en Ontario, quand on voit ce qui se passe en Inde, au Brésil, quand vous voyez ça, il y a des plages disponibles, puis les gens, ça fait pas leur affaire, ils se font faire des mèches à la place d'aller se faire vacciner, vous capotez pas un peu de dire, on sort d'une pandémie, pouvez-vous nous aider?
Non, je pense que c'est attendu. Puis je pense que globalement, là, la population répond très bien là, à la vaccination. Ce qu'on a à faire, c'est des efforts supplémentaires. Puis dans certaines régions, à Montréal, on a plus de barrières là, liées, comme je le disais, à la langue, aux communautés, au fait que les gens sont peut-être moins informés. Et peut-être que nos médias ne rejoignent pas toutes les communautés montréalaises. Mais somme toute, quand on regarde les sondages, on a quand même 80% qui souhaitent se faire vacciner, même dans les sondages qu'on fait sur la rue, dans des quartiers plus défavorisés. Donc, j'ai bon espoir qu'avec nos efforts, on va y arriver. Ça va peut-être nous prendre un petit peu plus de temps, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Puis on l'a démontré avec les 60 ans et plus. On a atteint nos couvertures plus de 80% à Montréal. Mm-hmm. Il n'y a pas de différence entre les voisinages et les quartiers. Donc, on a réussi même à réduire les écarts liés aux inégalités sociales. Et ça, c'est grâce à nos stratégies. On va continuer pour les autres groupages.
Vous parlez d'inégalité sociale. L'itinérance, c'est un méchant défi, puis c'est pas mal réservé à Montréal, aux grands centres urbains. Encore une fois, c'est quoi le plan de match à Montréal pour vacciner les sans-abri, les itinérants?
On a déjà fait une première campagne de vaccination janvier-février parce qu'on avait des grosses éclosions dans certains lieux d'hébergement. Donc, on avait déjà réussi en allant vacciner dans les sites d'hébergement. On en a vacciné plus de 1 300 personnes en situation d'itinérance et les travailleurs de ces lieux-là. On recommence depuis la fin avril une deuxième vague, une deuxième opération de vaccination sur les sites, mais aussi au Palais des Congrès, il y a un site, un petit kiosque là, de vaccination sans rendez-vous qui est dédié aux personnes en situation d'itinérance et qui permet là, de facilement, même si les gens n'ont pas leur carte d'assurance maladie et tout ça, d'avoir accès à leur première dose de vaccin. Donc, on va chercher quelques centaines de personnes. Évidemment, on travaille avec les organismes qui réfèrent, des fonds facilitent le transport et tout ça. Jusqu'à présent, ça va quand même très bien.
Pour les travailleurs de la santé, Dr. Drouin, là, est-ce que la vaccination devrait être obligatoire? Je lisais qu'il y a presque 40% des préposés aux bénéficiaires, des infirmières auxiliaires, qui ne se font pas vacciner. C'est quand même aberrant.
Ben, clairement, c'est un risque important. Là. Les travailleurs de la santé qui n'ont pas été vaccinés, donc on le voit, on a encore quelques explosions où l'introduction du virus se fait par des travailleurs de la santé. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits là, de promotion, d'entretien motivationnel. Et là, dernièrement, avec le dernier décret gouvernemental, demandant, donc toute personne non vaccinée va devoir se soumettre dans ces milieux-là comme travailleur à 3 dépistages par semaine. Clairement, la mesure nous a aidé là, à aller chercher un grand nombre de travailleurs qui ont accepté la vaccination. Donc ça, c'est quand même très positif. Donc, on est quand même rendu à des... ça dépend beaucoup là, des établissements et des types de professions, mais on a quand même été capable d'aller chercher plusieurs milliers là, de travailleurs supplémentaires avec cette mesure-là.
Donc, vous n'êtes pas en faveur d'une vaccination obligatoire?
Le Québec s'est jamais positionné là, sur le volet de l'obligation à la vaccination, que ce soit pour les travailleurs ou pour d'autres groupes. Ça, c'est une position provinciale là, depuis longtemps, là, avec un regard éthique et juridique là, qui est assez complexe comme analyse. Jusqu'à présent, je pense qu'avec les mesures qu'on met en place, je pense qu'on va arriver à atteindre quand même de nos objectifs en termes de couverture et de protection de ces milieux.
Docteur Drouin, Montréal s'en tire bien là dans les circonstances avec cette troisième vague. Là, on voit ce qui se passe à Toronto, dans le reste du Canada, ça va pas très bien. Pensez-vous que la clé du succès, c'est le couvre-feu? Mais là, on parle depuis hier, c'est rendu à 21h30 là, avec Laval. Mais est-ce qu'il y a des données scientifiques là, pour comprendre l'effet du couvre-feu là, sur la pandémie, sur les éclosions?
Le succès là, du fait qu'on ne vit pas une troisième vague, non, je ne crois pas que ça peut être attribué à un seul facteur. C'est certainement pas attribué uniquement là, au couvre-feu. Le couvre-feu, on l'a vu, il a quand même occasionné une diminution là, des déplacements, de la mobilité le soir et tout, et du nombre de contacts. En même temps, il n'y a pas d'évaluation formelle là, qui ont été faites, mais on a regardé un peu le cycle habituel là, des niveau de contact de la population selon les différents mois. Et on voit que même avec le couvre-feu, on se comporte un peu comme des années précédentes. Là. Donc, il y a beaucoup de contacts à Noël, ça diminue en janvier, ça remonte autour de la semaine de relâche et tout ça. Donc, je pense que oui, il y a probablement une contribution, mais de là à dire là, que le succès, moi, je pense de ce que vit actuellement la grande région de Montréal, c'est vraiment... on a mis en place un plan variant dès le début février avec une approche très suppressive. On n'a pas changé beaucoup nos mesures populationnelles à travers les 3 mois, là, janvier, février, mars, même en avril. Donc, la population est restée, on n'a pas fait de yo-yo. Donc, la population, l'adhésion de la population est restée assez bonne. On le voit dans nos taux de reproduction du virus. L'approche suppressive, on ferme les milieux rapidement, on isole plus de gens. Donc, je pense que tout ça ensemble, avec la vaccination accélérée, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on ne vit pas ce que malheureusement le Toronto ou d'autres grands centres vivent. Parce que je pense que ça aurait pu être une troisième catastrophe là, pour Montréal. Donc, on est vraiment heureux là, des résultats qu'on a actuellement. Là,
Mais juste de façon simple, là, parce que vous me parlez de manière suppressive, là, mais de façon simple, là, qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce que vous, à la santé publique, vous avez compris de cette troisième vague qu'on n'avait pas compris lors des deux premières?
Je pense qu'une des choses, comme je le disais, là, de maintenir d'éviter de jouer avec, de réouvrir, donc de jouer avec on a été moins en mitigation, donc on a maintenu des mesures populationnelles assez sévères, ce qui fait en sorte que la population, l'adhésion, la compréhension des consignes par la population a été stable à travers le temps. Et évidemment, dans l'approche suppressive, on n'hésite pas à isoler plus de gens, à envoyer plus de gens se faire dépister, à isoler les contacts de contacts, à fermer les milieux dès qu'il y a un début d'explosion dans certains milieux. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a coupé plus rapidement les chaînes de transmission en sachant que c'est un variant beaucoup plus contagieux. Donc, je pense que cette approche-là plus agressive a été payante pour nous, là.
OK. Deux dernières affaires, Dr. Drouin. Le passeport vaccinal, la réouverture des restaurants, des terrasses, là. Vous en êtes où, vous, pour à la santé publique de Montréal sur ce sujet-là?
Bien, c'est sûr qu'on va regarder qu'est-ce qui est possible de faire là, pour l'été. Là, à court terme, je pense qu'on le... Comme je le disais, l'effet yo-yo, on le souhaite pas. On a quand même, même si on a évité une troisième vague ou une hausse exponentielle, on a quand même actuellement à Montréal 300... ça a baissé cette semaine, là, mais autour entre 200 et 300 cas par jour. Donc, il y a quand même la transmission. On va probablement être capable là, d'apporter des allègements très progressifs. Évidemment, plus on va avancer dans une couverture vaccinale importante, on va pouvoir le faire en toute sécurité. Donc, on est vraiment... Il y a beaucoup de facteurs à considérer parce que via la situation épidémiologique, l'évolution de la couverture vaccinale, mais aussi d'autres types de variants qui, malheureusement, font leur coup de chemin. Jusqu'à présent, on les contrôle très bien. Mais en regardant tout ça, je souhaite et on va tout faire là, pour offrir là, et permettre un été plaisant à l'ensemble là, des Montréalais.
Ouais. Est-ce qu'il y a des variants qui vous inquiètent particulièrement?
Ah, mais il y en a plusieurs, évidemment. Les variants brésiliens, sud-africains et le variant indien, ce sont des variants qui, en plus, peuvent des fois échapper à l'immunité conférée par le vaccin. Donc, il y en a plus que d'autres. Là. Donc, c'est sûr que ces variants-là, on souhaite pas, sachant qu'on mise en partie sur la vaccination pour pouvoir sortir de cette crise-là, on souhaite éviter à tout prix là, qu'ils prennent de l'ampleur et beaucoup de place là, dans la situation épidémiologique. Pour le moment, on a des éclosions qui impliquent ces variants-là, mais on arrive, somme toute, là, à éviter là, qu'il n'y ait pas de transmission communautaire. Là. On arrive quand même à bien encapsuler le tout.
Un message aux Montréalais, aux Montréalaises, qu'est-ce que vous avez à leur dire?
Je vais leur dire merci. D'avoir permis, parce qu'une partie du succès là, de l'atteinte de nos objectifs en mars et avril est en partie grâce au fait qu'ils ont adhéré, adhéré aux mesures de santé publique lorsqu'il y avait des enquêtes, des éclosions. Et je leur demande d'aller se faire vacciner. Actuellement, on ouvre là, dans les deux prochaines semaines, ça va être ouvert au 18 ans et plus. N'hésitez pas, c'est vraiment notre passeport vers la liberté, là, je dirais, moins de revenir à une certaine normalité. Plus on accélère cette vaccination-là, plus c'est facile pour nous de prendre des décisions, une analyse de risque là, qui nous permet là, de réouvrir ou du moins là, de le faire avec une plus grande certitude là, qu'on ne va pas avoir une hausse de nouveau de cas.
Et votre message pour Maxime Bernier? Non, c'est correct, là, c'est fait. Ça donne rien. Docteur Drouin, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Continuez votre travail. On lâche pas, hein?
Non, tout à fait. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Alors, merci.
Ça marche. Merci.